En 1940, monsieur, j'étais jeune professeur de français au lycée de jeunes filles à Oran, en Algérie, lorsque l'État français a promulgué les lois portant statut des Juifs en France. Nous avons reçu une circulaire, monsieur, nous demandant d'identifier les élèves juifs afin de les expulser des établissements publics. Monsieur, des élèves juives à Oran, j'en avais quelques-unes. J'ai pleuré de rage. J'enseignais Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu. Monsieur, sachant les enseigner, nous aurions dû savoir les défendre. Et donc Christiane Faure me raconte que elle est la seule à s'offusquer et que ses collègues lui disent « Écoute, Christiane, qu'est-ce que tu veux faire ? De toute façon, on n'y peut rien. C'est une loi, c'est la guerre. Et puis, mets-la un peu en veilleux si tu veux pas d'ennui. » Et alors, elle va résister, Christiane Faure. Elle va leur faire passer des cours en cachette le soir chez elle. Mais ça va se savoir. Et on va la menacer. On va la menacer de déportation. Mais l'Algérie est libérée très tôt et en 1942, le gouvernement provisoire de la République s'installe à Alger. Ils ont entendu parler d'elle et lui proposent de rentrer dans le premier cabinet du premier ministère républicain de l'éducation nationale. Le directeur de cabinet s'appelle M. Jean Guéhenot, un philosophe, un intellectuel proche du Parti communiste, un type important. Alors ils mettent en place en 1944 un truc hallucinant qu'on appelle la direction de l'éducation populaire et des mouvements de jeunesse. Et donc c'est Christiane Faure qui est chargée de mettre ça en place et elle va recruter des gens de la culture populaire, des gens du cinéma, des gens de la radio, M. Pierre Schaeffer qui va créer Radio France plus tard, des gens du théâtre. Et ils vont être 18 à embarquer dans l'histoire et elle va leur demander s'ils accepteraient de laisser tomber leur carrière professionnelle en quelque sorte et de venir inventer les conditions d'une éducation politique des jeunes adultes en France. On est en 44. On vient d'ouvrir les portes d'Auschwitz.
Oui, je raconte une toute petite histoire de notre histoire, de ce que des historiens appelleraient un personnage secondaire, enfin bref, qui est celle de cette mademoiselle Christiane Faure, qui est par ailleurs la belle-sœur d'Albert Camus, des choses comme ça, c'est pas n'importe qui non plus, qui avec Jean Guéhenot, avec René Capitan, enfin à la Libération, qui se pose la question de transformer le ministère de l'Instruction publique en ministère de l'Éducation nationale, en partant du principe que avec Auschwitz, on sait désormais que c'est pas un problème de culture. On peut être extrêmement cultivé et un vrai fasciste.
On peut être très instruit, très nazi.
Instruit, voilà, complètement. Et donc, si c'est pas un problème d'éducation et culture, c'est donc un problème d'éducation politique. Ça va durer très peu de temps, ça va durer 3 ans avant d'être torpillé, ce truc-là. Donc c'est rien, de 44 à 48, mais une espèce d'intention qui va rester, qui va pas mourir, qui va continuer à travailler, à emmerder le monde. Et donc ils vont mettre en place une direction de l'éducation populaire. Éducation populaire, Christiane Faure m'explique que dans son esprit, c'est de l'éducation politique, enfin c'est de la culture politique, d'accord ? C'est comment est-ce qu'on va sortir du fascisme, comment on va faire que ça n'arrive plus jamais, comment on va installer sérieusement et définitivement une démocratie. Bah, pour faire ça, il faut faire de la culture politique. Il faut que les gens acquièrent une culture politique. Ce que, par ailleurs, Condorcet avait déjà raconté il y a 2 siècles, mais enfin, on avait soigneusement laissé tomber cet aspect de...
Et développer ça, cette idée de Condorcet, Christiane Faure. Restons un petit peu là-dessus, parce que c'est l'essentiel, c'est la base de votre boulot, c'est la base de votre réflexion, c'est ce qui a fait que vous êtes un renégat de la mission qui était la vôtre auprès de ceux sur la tête desquels vous mettiez du fumier. C'est quand même important. Alors, remontons à Condorcet.
Au moment de la Révolution française, il s'agit de réaliser l'égalité, la vraie, vraiment, de la faire pour de vrai, hein, pas l'égalité des chances, hein, ça c'est celle de Sarkozy, hein, l'égalité des chances, on est d'accord, ça veut dire l'inégalité, ok, c'est des astuces de langage à la con dont on souffre tous actuellement. Et donc il faut faire vraiment de l'égalité. Alors il y a plein de plans d'éducation, il n'y a pas que celui de Condorcet, hein, je raconte dans une autre conférence, je parle de Le Pelletier de Saint-Fargeau, etc. Mais bref, grosso modo, Condorcet comprend un truc, c'est qu'il faut faire l'instruction publique, là, des enfants, mais que si on fait que ça, on va simplement reproduire une société dans laquelle les inégalités seront désormais justifiées par les savoirs. C'est-à-dire, si t'es pauvre, c'est parce que t'es pas assez instruit, c'est bien fait pour toi, t'avais qu'à bouger à l'école. C'est un mensonge incroyable. Enfin, Bourdieu a expliqué dès 1962 que c'était complètement aberrant, ce truc-là. Enfin, que l'école ne change rien aux inégalités, l'école les reproduit, elle les légitime. Et donc, Condorcet dit, il faut faire aussi l'éducation politique des adultes. D'accord ? Pas des enfants, ok, on va pas faire de l'éducation politique des enfants, tout le monde peut comprendre pourquoi. Mais une fois que c'est plus des enfants, on peut faire l'éducation politique, c'est-à-dire expliquer la démocratie, la République. La démocratie, c'est un rapport de force, hein, c'est pas un État, on n'est jamais en démocratie, jamais. Hein, on est toujours plus ou moins en démocratie. Et donc Condorcet, il appelle ça l'éducation populaire.